Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et cet été, c'est tous les dimanches à partir de 16h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Jezelson. Bonjour David Jezelson.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier. Sur France Inter.
David Jezelson, vous êtes comédien, metteur en scène et dramaturge. Vous jouez jusqu'au 17 juillet au Festival d'Avignon dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Vous jouez la Cerisette.
C'est ça.
Avec Isabelle Huppert.
C'est ça.
Pas mal.
Ouais.
Mise en scène par Thiago Rodriguez.
C'est ça.
Et vous jouez qui ?
Je joue le rôle de Petia Trofimov.
Qui est qui ?
Qui est un étudiant activiste politique.
Éternel étudiant.
Éternel étudiant.
Oui. Très amoureux.
Très amoureux, très activiste, je pense.
Et c'est un texte qui résonne avec ce qu'on vient de traverser, puisque c'est un texte qui parle d'un bouleversement, d'un changement d'époque.
Ouais, oui, oui, très très fort. On peut l'actualiser très fort en le prenant tel quel, juste en ayant un point de vue dessus. Voilà, en voyant ça, que c'est vraiment un texte qui parle du changement très fort, d'un changement politique, sociétal, gigantesque. Qui est le changement qui va arriver en Russie en 1905. Là, la pièce finit d'être écrite en 1902. Voilà, donc on est juste avant la Révolution.
Donc Tchekhov parle de nous.
Je crois très très fort, ouais.
David Jezelson, vous avez choisi comme journée particulière le 24 septembre 2007. Ce jour-là, vous appreniez la disparition du philosophe André Gortz et de sa femme Dorine Kerr.
Un suicide par amour, double suicide, parce que André n'imaginait pas pouvoir survivre à son épouse Dorine, rencontrée il y a tout juste 60 ans, et qui était gravement malade. Leurs deux corps ont été retrouvés côte à côte dans leur maison de Vonon, dans l'Aube, et tout indique qu'ils ont voulu partir ensemble. André, c'est André Gorz, une figure de la gauche intellectuelle, cofondateur du Nouvel Observateur avec Jean Daniel, sous le nom de Michel Bosquet, philosophe et écrivain. Il faut lire notamment Le Traître, paru en 58, pionnier de l'écologie politique. André Gorz vivait une passion absolue pour son épouse. Serge Laforie du Nouvel Observateur était l'un de ses amis.
Son dernier livre, ça s'appelait Lettre à D, et c'était une lettre à sa femme Dorine, ouais. Qui était une Anglaise qu'il avait connue en Suisse, quasiment, et il ne s'était jamais quitté. Et à un point tel que quand il partait pour une conférence ou pour un reportage ou quelque chose comme ça, qu'il était invité à l'étranger, s'il ne pouvait pas venir avec elle, il n'y allait pas. Il ne se séparait jamais.
C'est une archive, Ina, du 24 septembre 2007. David Jezelson, est-ce que vous vous souvenez où vous étiez quand vous avez appris cette nouvelle ?
Oui, très précisément. Je partais de chez moi un matin, il était 9h. Et j'avais lu la lettre AD quelques mois avant, 6 mois avant à peu près.
Donc cette déclaration d'amour.
Grande déclaration d'amour de André à Dorine. Et comme ça m'a fait vraiment beaucoup bouleverser. Et puis en ce mois de septembre, j'avais pas de travail, pas de vie amoureuse à l'époque. Et je suis descendu au café où j'allais tous les matins. Ça s'appelait le Barbouille. Et je suis allé commander un café. Et le barman que je voyais tous les jours me sert un café, j'ouvre le journal Libération, et puis je feuillette le journal, et puis dans les pages, à la fin, culture ou nécrologique, je sais plus, je lis que André et Dorine se sont suicidés, qu'ils ont été retrouvés morts à Vonon, et là je m'effondre en larmes. Et le barman me dit, mais qu'est-ce qui va pas, David, ça va, t'as un problème? Et j'allais évidemment pas lui dire, non, mais c'est deux vieux de 83 et 84 ans que je connais pas, qui viennent de se suicider, ça me bouleverse, donc j'ai rien dit. J'ai dit, non, ça va aller, et évidemment, tout m'était remonté de cette histoire d'amour sublime de 58 ans qu'ils avaient vécu. Et je me disais, ils sont allés jusqu'à partir ensemble. Et ça m'a bouleversé.
Quoi. Et c'est ça qui vous a bouleversé, justement, c'est qu'ils partent ensemble après 58 ans de vie commune, qu'ils décident de mourir ensemble.
Ouais, je crois très fort. C'était ça et c'était... l'illusion d'un espèce d'amour idéal, idéalisé. C'était très infantile, je pense, mais c'est un moment où j'avais pas d'amour dans ma vie, enfin pas de vie amoureuse. Et donc, évidemment, on voit ces deux-là, ces deux vieux de 83 et 84 ans partir. On se dit, bon, alors comment je vais faire, moi, pour aimer maintenant?
Oui, après tout ça.
Comment être à la hauteur de cet amour-là? Et puis après, on réalise que c'est pas si simple et qu'on désidéalise un peu et qu'il y a d'autres choses derrière. Mais...
C'était un peu comme un mythe comme Tristan et Iseult.
Complètement.
Impossible de s'imaginer séparés, même dans la mort.
Oui, c'est ça. C'est ça. Après, en rentrant dans le détail, j'ai découvert que c'était plus compliqué que ça et que André Gortz lui-même était... Évidemment, il n'imaginait pas du tout pouvoir se séparer de cette femme, mais il avait quand même eu, adolescent et tout au long de sa vie, l'idée que si un jour elle partait, il partirait avec elle. Mais avant même de la rencontrer, il avait des idées suicidaires quand il avait 20 ans. C'était un ado un peu tourmenté, quoi. Voilà, donc... Je pense que c'est pas que l'amour qui l'a fait partir.
C'est-à-dire ?
Bah, j'imagine que c'est un homme qui, quand on lit un peu dans ses écrits de prime jeunesse, il y a un roman qui s'appelle Vie morte, il dit que la vie ça sert à rien, que ça n'a aucun intérêt, on s'en fout. Pourquoi vivre ? Qu'est-ce que c'est que cette idée qu'il faut vivre ? La volonté d'être en vie, pour lui c'est complètement absurde. Et quand il écrit Le Traître, fin des années 50, c'est pareil. Il dit, mais qu'est-ce qui me pousse à être vivant ? Rien, c'est la société. Moi j'ai pas envie d'être vivant, c'est beaucoup trop compliqué la vie. Et 40 ans après, il se suicide. Évidemment par amour, mais j'aime à penser que pas seulement.
Est-ce que vous pouvez, vous avez le livre devant vous, Lettre AD, est-ce que vous pouvez me lire le tout début de ce texte ?
Tu vas avoir 82 ans, tu as rapetissé de 6 cm, tu ne pèses que 45 kg, et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble, et je t'aime plus que jamais. Je porte de nouveau, au creux de ma poitrine, un vide dévorant que seul comble la chaleur de ton corps contre le mien.
Ce texte a été écrit un an avant qu'il ne meure. Elle souffrait d'une maladie incurable à cause d'un liquide, le lipiodol,
ouais.
qu'on lui avait
injecté. Elle avait des douleurs, elle avait mal au dos, au cou. Et on lui a fait une radio pour vérifier ce qu'elle avait. Et à l'occasion de cette radio, on lui a injecté un produit de contraste, comme on fait encore aujourd'hui. Et ce produit de contraste, en fait, ça faisait plusieurs années que la communauté médicale avait recommandé de cesser de l'utiliser. Simplement, on est en 73 à ce moment-là, et l'information va pas aussi vite qu'aujourd'hui, et il y a des médecins qui continuent à utiliser du lipiodol. Or, on sait depuis 15 ans, à cette époque-là, que la concentration en huile de ce liquide fait que ça ne se dissout jamais. Et donc, ça finit par s'enquister, et ce produit de contraste va rester dans sa moelle épinière et circuler pendant toute sa vie.
Donc, elle était malade depuis 40 ans déjà,
40 ans, ouais.
Quand ils se sont donné la mort. Et alors, c'est très beau parce qu'ils se sont donné la mort à côté des arbres qu'ils avaient plantés.
Oui. Ils avaient une maison, ils avaient acheté une maison à la campagne, à Vaunon, dans l'Aube. Et ils avaient fait pousser, Gortz, dans la fin de sa vie, ces 20 dernières années, il plantait des arbres et des haies, beaucoup, tout le temps. Et ils savaient qu'ils avaient choisi que c'était leur dernière demeure, quoi. Cet endroit-là. Ils sont partis là.
Et ils sont partis là et ils disaient qu'ils souhaitaient qu'il ne reste d'eux, justement, que des arbres.
Exactement.
Alors, David Gesselson, pour commencer cette émission, on vous propose d'écouter une très belle chanson d'amour qui dit qu'il n'y a pas de montagne assez haute, pas de vallée assez profonde et de rivière assez large pour m'empêcher de te rejoindre.
Don't have to worry.
adorez cette musique ?
J'adore ça.
Vous adorez ça ?
J'adore ça et j'adore ces années-là.
Vous adorez les années 60 ?
Ah ouais.
Ah ouais. Donc c'était pour vous.
Si, si, pour vous raconter que très récemment, on a fait une bataille de meilleurs tubes de soul des années 60 avec Thiago Rodriguez pendant les répétitions de La Cerisée et que c'était vraiment rigolo.
Et vous avez gagné ?
Ben non, il a gagné, évidemment.
Ah, juste, je suis un peu déçu. Ouais.
On peut dire que c'était ex-aequo, mais je pense que je suis obligé de lui laisser la victoire.
Désolée pour vous. Donc le 24 septembre 2007, c'est votre journée particulière sur France Inter, David Chesselson. Ce jour-là, donc, vous appreniez la mort d'André Gortz et de sa femme Dorine Kerr, et vous étiez bouleversé par leur amour indéfectible et par l'impossibilité de s'imaginer vivre l'un sans l'autre. Un an avant leur mort, on vous offrait donc Lettre AD, qui a été un grand succès de librairie. Ultime déclaration d'amour d'André Gortz à sa femme après 58 ans de vie commune. Et pendant plusieurs mois, vous avez cherché à adapter ce livre, cette Lettre AD au théâtre. Mais vous n'y arriviez pas, David.
Non, j'ai pas réussi. J'ai essayé pendant plusieurs mois. J'ai été tellement ému par cette histoire que j'avais commencé à travailler un peu sur Gortz. J'avais lu Le Traître, notamment, qui est le premier livre qu'il a fait paraître. Et j'avais trouvé un frère jumeau. Enfin, je m'étais dit, mais c'est non seulement cette histoire d'amour me bouleverse, mais en plus, c'était une sorte de Woody Allen, fin des années 50, d'un type qui dit, je sais pas comment en vivre, c'est trop compliqué, j'y arrive pas. Je suis trop angoissé. Oui, je suis amoureux, mais en fait, je m'en fous, elle est folle amoureuse de moi, moi pas. Bon, un type en boucle, avec pas mal d'humour, à l'époque. Et je me suis dit, non, mais non seulement ce mec me fait rire, et en plus, il me bouleverse, il faut que je fasse un spectacle là-dessus. Et puis, découvrant son histoire, je vois qu'il est un des pionniers de l'écologie politique, il a traversé l'histoire. Donc, tout ça me passionne.
Et
je sais pas comment faire. Donc, je fais des coupes dans Lettre AD. Et puis je fais des essais avec un acteur super qui était un ami qui s'appelle Marc Choupard. On fait des lectures et puis on s'aperçoit, et l'un et l'autre, que c'est super de le lire, mais qu'il vaut mieux le lire pour soi-même. Donc j'abandonne.
Vous abandonnez et vous avez donc dû faire un détour par votre propre histoire et une autre histoire d'amour extraordinaire, qui est l'histoire d'amour de votre grand-père, pour enfin réussir à monter Lettre AD. Est-ce que vous pouvez me parler de cette autre histoire d'amour extraordinaire ?
Deux ans après la mort de Gortz et Dorine, mon grand-père meurt et c'était quelqu'un d'important pour moi. Et puis la veille de l'enterrement, ma mère me dit « Tu sais, ton grand-père, il était marié avec ta grand-mère, mais elle était morte 15 ans avant, mais il avait eu tout au long de sa vie une autre histoire d'amour. » Je dis « Ah bon ?» Quoi. Elle me dit, c'est pas une histoire d'amour, si on peut dire. En tout cas, il avait aimé quelqu'un pendant 60 ans avec qui il n'avait pas vraiment vécu. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette autre histoire d'amour de 60 ans? Et là, elle me raconte. Elle me dit, voilà, ton grand-père, il est parti de Lituanie quand il avait 19 ans. Et à 19 ans, il est tombé fou amoureux d'une jeune fille qui s'appelait Raya. C'est la première femme avec qui il a eu une relation sexuelle. Et c'était un amour fou, dingue. Mais il avait décidé de partir de Lituanie pour aller vivre en Palestine. Et il l'a quitté, la mort dans l'âme. Et puis, quelques années après être arrivé en Palestine, dans les années 30, il se trouve, me raconte ma mère, qu'il l'a retrouvé. Par hasard, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais je crois que c'est vrai. Et ils se rencontrent, ils se revoient 10 ans après, ils retombent fous amoureux l'un de l'autre, et là ils vivent enfin leur histoire d'amour merveilleuse. Donc ça devient un peu la légende dans la famille, cette merveilleuse histoire, ils s'aiment, c'est merveilleux.
Ils se baladent dans la vallée du Jourdain,
Spinoza. Voilà, elle lit du Spinoza, lui et elle pensent qu'ils vont réussir à faire une société égalitaire, communiste ou socialiste en Palestine. C'est devenu autre chose, on le sait, malheureusement. Mais à cette époque-là, eux, ils sont pleins d'espoir, pleins d'amour. Et puis, lui, il part beaucoup, il va prendre des cours d'histoire, il veut devenir professeur d'histoire. Donc, il s'absente énormément. Et puis, arrive le jour où il rentre à la maison et il la voit avec un autre. Il y a un autre homme dans son lit. Donc là, on peut imaginer une scène de jalousie terrible. Et du coup, il se sépare et il lui dit qu'il veut plus jamais la revoir de sa vie. Il est extrêmement blessé et l'histoire se termine. Et puis, il rencontre ma grand-mère. Et il se marie avec ma grand-mère, et il fait un enfant avec ma grand-mère, qui sera ma mère. Mais il se trouve que 20 ans après tout ça, au début des années 70, il s'installe à Jérusalem, et un jour il a un coup de téléphone de cette jeune femme, Raike, qu'il n'a pas vue depuis 20 ans. Il est très très ému, et ma mère me raconte qu'ils se sont revus 20 ans après, et on ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là. Et puis les années ont encore passé, et ma mère me raconte que... En 1995, à la mort de ma grand-mère, Raike est au courant, parce que dans le journal, il y a la nécro, que la femme de Yehuda, son amour d'enfance, est morte. Elle l'appelle pour savoir comment ça va. Et il est très blessé, il dit non, fous-moi la paix, tu reviens au moment où les gens meurent, c'est terminé. Plus de nouvelles. Et à la fin de sa vie, à 92 ans, et c'est là que, pour ça que ma mère me le raconte, elle me dit, tu sais, ton grand-père, quelque temps avant de mourir, il voulait revoir Reike. Il l'a appelé, et il a composé son numéro de téléphone, et c'est un homme qui a décroché. Il a demandé à parler à Reike, et c'était trop tard, Reike était morte.
Et de ça, David Gieselson, vous en avez fait un spectacle.
C'est ça.
Un spectacle qui raconte à la fois cette histoire d'amour de votre grand-père et aussi son engagement, ouais. Son engagement pour l'État d'Israël. Et c'est un spectacle où vous mêlez à la fois le politique et l'intime. Et c'est ça qui vous a intéressé parce que vous vous posez aussi des questions politiques. Vous ne racontez pas que cette histoire d'amour.
Alors, c'est pas tant, je sais, mon grand-père était pas, c'était pas tant qu'il était engagé pour l'État d'Israël, qu'il était engagé dans sa vie pour essayer de construire quelque chose, et il avait un idéal qui est l'inverse de ce qu'est devenu l'État d'Israël aujourd'hui. Voilà
c'est préciser. Ça. Faut préciser, mais c'est ce que vous racontez dans votre spectacle.
C'est ce que je raconte dans le spectacle. Et le spectacle raconte ça. Raconte comment un homme qui avait un idéal d'égalité et de vivre ensemble a vu son idéal se briser, s'effondrer complètement. Et donc, ce spectacle raconte ça. Parce que oui, je crois que ce qu'on appelle la grande histoire, elle est faite par des individus, des gens, et ça m'intéresse de raconter l'histoire d'individus pour raconter la grande histoire.
C'est ça que vous avez fait avec votre...
Et c'est ça que j'ai fait avec En route Kaddish, qui racontant la vie de mon grand-père, raconte aussi l'histoire du conflit israélo-palestinien.
Et votre interrogation à vous en tant qu'héritier sur comment se débrouiller avec cette histoire-là et avec la colonisation aujourd'hui.
Exactement, comment on se débrouille quand on est héritier de cette histoire et qu'on est, comme c'est mon cas, extrêmement, de manière virulente, contre le gouvernement israélien actuel et les gouvernements israéliens de ces 20 dernières années. Mais qu'on vient pourtant de là, comment on fait pour se débrouiller avec ça? Comment est-ce qu'on supporte cette réalité-là aujourd'hui quand on est, comme moi, ni religieux, ni pratiquant, ni... Voilà, je suis juste un être humain qui essaie de survivre sur cette terre qui bientôt sera trop chaude pour qu'on puisse y être. Mais voilà.
Et à partir de ce spectacle, donc sur votre grand-père et sur son engagement, vous êtes dit, je peux maintenant écrire un spectacle à partir de Lettre AD.
Exactement.
Et de la même façon, vous allez interroger l'intime et le politique.
C'est ça, c'est-à-dire que faisant le chemin avec mon grand-père et du coup racontant sa vie, essayant d'explorer quelle a été son histoire et comment je la mets en regard de la grande histoire, mais finalement je pourrais faire pareil avec André Gortz. Et donc, parce qu'il a une vie André Gortz, donc je suis allé chercher quelle était la vie d'André Gortz et qu'est-ce qui avait fait qu'il avait écrit cette déclaration d'amour à sa femme. Et donc j'ai fait une plongée dans la vie, dans la biographie de Gortz, et j'ai comme appliqué la même méthodologie de travail pour pouvoir adapter cette lettre AD.
Et votre spectacle s'appelle Dorine, donc Dorine comme le D de cette fameuse lettre AD, qui est le prénom de la femme d'André Gortz, et lui s'appelait pas vraiment André Gortz, il avait plein de pseudonymes. Ouais. Il s'appelait Gerhard.
Gerhard.
Et sa femme l'appelait Gérard.
C'est ça, parce qu'il est devenu naturalisé français, il est devenu Gérard.
Et dans le spectacle, vous jouez, vous, le rôle...
Gérard. Quand Dorine a fini de lire la lettre, pour la première fois, elle m'a dit, Gérard, qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Et je lui ai dit, on va essayer de la publier. Et j'avais l'intention de l'appeler Lettre à Dorine. Et elle m'a dit, tu peux pas me faire ça, au moins, mets Lettre à D. Et j'ai trouvé ça génial comme titre. Ça a du mystère, c'est beaucoup plus évocateur que de mettre le prénom sur une personne.
Non, mais Dorine, ça n'est pas un prénom très courant en France. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre qui a ce prénom. Voilà. Bon, il existe chez Molière, quand même. Mais ça, j'ai trouvé que c'était trop. Ça fait exister pour les autres. Ce que je ne veux pas, ça suffit déjà d'exister pour soi-même. C'est déjà lourd à porter. C'est très embarrassant tout ça. Mais Gérard parle beaucoup.
Alors ça, c'est un extrait de l'adaptation que vous avez faite de votre pièce de théâtre pour la radio, pour France Culture. Dans ce spectacle, vous invitez les gens à rentrer dans l'intimité d'André et de Dorine. Et en fait, ils vont raconter leur histoire une heure. Ça se passe une heure avant leur mort, et ils vont traverser et raconter aux spectateurs leur histoire.
C'est ça, c'est un peu comme les scènes de la vie conjugale de Gortz et de Dorine. Ils se donnent à voir vivre pendant 58 ans, ces 58 ans qui sont ramassés en une heure. Donc on va voir ce couple s'aimer, s'engueuler, se marier, se réconcilier, se chamailler, offrir à boire l'apéro aux spectateurs, jusqu'à découvrir qu'elle est malade, qu'elle a subi cette injection. Et puis on finit par comprendre petit à petit qu'ils vieillissent. On a 35 ans, enfin à l'époque on avait 35 ans, maintenant un peu plus, mais on a notre âge à nous, c'est-à-dire qu'on a ni Laure Matisse qui joue Dorine, qui est la merveilleuse Dorine de ce spectacle. On n'a pas 80 ans, on en a 40 à peu près, tous les deux. Et donc on traverse ces 58 ans, on nous voit vieillir et puis on comprend qu'on va partir.
Et on comprend aussi que c'était un amour tumultueux, c'était pas du tout un amour tranquille.
Alors, nous, on a préféré raconter ça. Je sais pas la réalité de la vraie vie de Gérard et Dorine. Après tout, voilà, c'est dans ça, c'est leur secret. Nous, on a trouvé qu'aujourd'hui, en 2016, quand on a créé ce spectacle, c'était quand même plus rigolo de raconter que c'était pas un long fleuve tranquille, non. Leur histoire d'amour. Moi, je pense que c'est ennuyeux, sinon.
Et qu'elle était un peu une empêcheuse de tourner en rond, Dorine.
Ouais, ça, clair, mais ça, par contre, c'est lui qui le raconte beaucoup. Ouais, ouais.
Oui, qu'elle le contredisait tout le temps.
Qu'elle lui mettait un peu les pieds sur terre, parce qu'il était, il disait lui-même qu'il était complètement dans des trucs théoriques et qu'il était pénible et qu'il était chiant et qu'il était pas marrant.
Insupportable à vivre.
Elle disait qu'il était invivable et qu'à un moment donné, il fallait le ramener aux choses concrètes. Elle raconte beaucoup, enfin, ils racontent ensemble qu'elle le. C'est un peu un jeu, ils se mettent un peu en scène, mais qu'elle le recentre, quoi. Voilà.
J'aimerais bien qu'on aille à la mer.
Ouais.
On pourrait aller chez Marcuse.
Tu veux aller en Californie ?
Oui. Pourquoi pas ?
Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Non, mais simplement, je suis en train d'écrire un article sur la bagnole et c'est pas très crédible de se mettre à prendre l'avion alors que je suis en train d'expliquer que l'avènement de la bagnole est une catastrophe. C'est pas très cohérent. C'est tout. Voilà. Mais... Oui, c'est une bonne idée.
Gérard, qu'est-ce que tu as avec la voiture ? Tout le monde a une voiture. Nous, on a même deux voitures.
Non, c'est pas le problème, je te parle pas de nous. Hein.
Bah si, c'est le problème. Si tu as un problème avec la voiture, commence par revendre les tiennes.
Ça n'a rien à voir.
Mais évidemment que ça a à voir. Gérard, ça rend libre la voiture. Regarde, toi, elles te rendent libre, tes voitures.
Non. Elles me rendent pas libre. Précisément pas. J'aimerais bien, mais la réalité, c'est que ça débilite la voiture. Ça rend les gens débiles. Ça nous rend dépendants. Alors qu'il y a tout un tas d'autres moyens de transport qui te permettent de conserver ton autonomie et ton indépendance. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux aller à cheval quelque part, tu peux apprendre à faire du cheval et t'as besoin de rien d'autre.
Ben, si, t'as besoin d'un cheval.
Non, mais je veux dire, même un vélo, disons. Tu veux aller quelque part à vélo, tu peux apprendre à faire du vélo. C'est à la portée de n'importe qui. Alors qu'avec la voiture, si tu as le moindre problème, la quantité d'experts qu'il te faut pour la réparer, c'est totalement aliénant. Et même juste pour lui donner de l'essence, pour qu'elle fonctionne. La quantité d'intermédiaires et d'experts qu'il te faut pour faire fonctionner une seule bagnole, c'est gigantesque. La voiture, ça te promet d'être libre au départ, mais en réalité, ça fait de toi un esclave.
Oui, mais bon, le cheval aussi, ça fait de toi un esclave. Il te faut une écurie, un éleveur, un type pour le dresser, ton cheval, du foin, etc. Il te faut aussi des experts pour faire du cheval. Enfin, il te faut des experts en chevaux, quoi. Non, la question, c'est pas ça. Ta question, là, c'est l'essence. Avec la voiture, t'es dépendant de l'essence, du pétrole. Ton problème, c'est ça. Tout le monde est dépendant du pétrole, puisque tout le monde a une voiture, voire deux. Tout le monde est dépendant d'une seule entreprise, d'une seule industrie.
Oui. Bon, donc on est d'accord, en fait.
Oui, mais donc il faut que tu parles de ça, pas des experts. Il faut que tu parles du fait qu'avec la voiture, l'industrie du pétrole détient un monopole qui rend l'humanité, enfin disons la part de l'humanité qui a une voiture, entièrement dépendante.
Est-ce que ce serait possible de t'épouser, tu crois ?
Non mais arrête, on discute là.
Et alors ? Non mais tu vas peut-être me réépouser quand même, non ?
Arrête Gérard, c'est désobligeant là et c'est chiant. T'es chiant.
Autre extrait de l'adaptation que vous avez fait pour la radio de votre spectacle Dorine, David Jesselson. Là, on entend que Dorine était aussi une partenaire intellectuelle.
Oui, André Gortz. Oui. Moi, j'ai voulu montrer ça. Je ne sais pas la réalité de cette chose-là. On extrapole et peu importe la réalité, au fond. Mais encore une fois, j'ai trouvé ça important de montrer ça aujourd'hui, de cette puissance de pensée qui, je suppose, était celle de Dorine aussi.
Et vous, comme vous le disiez tout à l'heure, vous vous êtes plongé dans la pensée de André Gortz. Vous avez lu, énormément lu. Vous l'avez dit, ça a été un compagnon de Sartre, cofondateur du Nouvel Observateur, précurseur de l'écologie politique, penseur de la décroissance. Et il a esquissé les prémices d'une nouvelle civilisation. Je vous propose de l'écouter. C'était en 1991, André Gortz, avenant Avoinu sur France Culture.
Il est indispensable de dire que la seule perspective, c'est de continuer de réduire la durée du travail, puisque le travail est de plus en plus productif, de plus en plus efficace.
Donc on peut imaginer que le chômage ne sera plus une catastrophe si on va vers le non-travail.
Effectivement, le chômage n'est pas une catastrophe s'il n'est pas considéré comme du chômage, mais comme des possibilités de loisirs fortement accrues, assurées à tout le monde, en même temps qu'un revenu stable. Non, il faut que tout le monde puisse travailler dans la mesure où il en a envie, travailler beaucoup moins, et gagner convenablement sa vie. Et c'est possible, mais c'est une politique à long terme.
Est-ce que vous voyez qu'on s'engage dans cette voie du travail partiel ?
Ça n'est plus du travail partiel. Pas plus que les 1600 heures que vous faites aujourd'hui à la place des 3000 heures que vous faisiez il y a 40 ans ne sont du travail partiel. Les 1000 heures que vous ferez demain à la place des 1600 aujourd'hui ne sont du travail partiel. La norme du plein temps va changer. La richesse d'une nation ne réside pas dans le volume des richesses produites, mais dans le fait qu'au lieu de produire les richesses dont cette nation a besoin, on n'utilise plus 8 heures chaque jour, mais seulement 4. Autrement dit, la mesure de la richesse, c'est le temps disponible.
Formidable interview hein, d'André Gortz. Ouais. 1991, c'était une interview de Marie Arminot, donc dans À Voix Nue. Ça, vous l'avez lu, évidemment, travailler.
Oui, oui, oui.
Travailler moins pour s'adonner à des activités coopératives et productives.
Oui, et puis ce que Gortz parle du revenu universel, hein, de questions qu'on se pose encore aujourd'hui, et dès les années, fin des années 80, dans ce livre qu'il faut lire qui s'appelle Métamorphose du travail, il explique à ce moment-là, on est en 88, que voilà, on produit suffisamment de richesses pour pouvoir partager de manière équitable toutes ces richesses à part égale entre les individus qui composent la société, et ce faisant travailler beaucoup moins grâce ou à cause de la mécanisation de la société, de la machinisation de tout un tas de secteurs dans l'industrie, dans les usines, etc. Et qu'en fait, on produit tout autant de richesses en ayant moins besoin de main-d'œuvre humaine pour le faire. Et que ce faisant, ça libère du temps et que ce temps, si on accepte qu'il soit libéré, alors on change de société vraiment.
Vous, David Jesselson, ça vous a transformé la pensée de André Gortz ?
Totalement.
Ça a changé quelque chose dans votre vie ?
Ça a totalement changé ma vision du monde dans lequel j'étais. Je pense que j'étais ignorant de beaucoup, beaucoup de choses, et j'étais, je pense, un peu con, un peu bébête, à plein d'endroits sur comment je voyais la société. Je pense que j'avais des choses très conservatrices dans la manière de voir le monde qui m'entourait, et il m'a vraiment changé mon regard, notamment sur ça, sur les questions de décroissance, sur les questions de répartition du temps de travail, sur la réduction du travail. Ça m'a vraiment, ça a totalement transformé de fond en comble ma vision de la réalité qui m'entourait, quoi.
Vous avez reconnu cette musique, évidemment.
C'est Brad Mehldau.
Ouais.
C'est Paranoïde Android.
Ouais.
C'est ça, je ne me suis pas trompé.
Non, vous n'êtes pas trompé, c'est la reprise. Et vous avez fait aussi un concours avec Thiago Rodriguez, le metteur en scène de La Cerisaie. Ouais. Brad Meldo, un concours.
De nos Brad Meldo préférés.
Et alors, qui a gagné? Toujours lui.
Je ne sais pas, personne, je pense. Brad Meldo.
Brad Meldo. Jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée particulière de David Jesselson. Après votre spectacle inspiré du livre « Lettre à D » d'André Gortz, David Jesselson, vous avez eu envie de savoir si vous étiez, vous aussi, capable d'écrire autre chose que du théâtre et de travailler sur l'intimité des gens. Et vous avez voulu, vous aussi, écrire des lettres. Et je voulais savoir pourquoi le thème de la correspondance vous intéresse tant.
Je ne sais pas si ça m'intéresse dans l'absolu. Au moment où j'essayais d'adapter la lettre à D, je me posais la question de la puissance possible de l'adaptation d'une lettre sur un plateau de théâtre, puisque c'était mon objet de recherche, donc je me disais comment on fait ça. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on était justement avec Thiago Rodriguez en train de faire un travail, on avait fait un spectacle qui s'appelle Bovary, qu'avait écrit Thiago, qu'il avait écrit en portugais avec une équipe portugaise et qu'on recrée avec une équipe française, enfin qu'il recrée avec nous. Et on faisait 3 mois d'occupation du théâtre de la Bastille. À cette occasion-là, on jouait le spectacle et on proposait à des spectateurs volontaires de venir tous les jours au théâtre et on faisait des projets avec eux. Et donc chaque spectateur pouvait nous proposer des projets de théâtre et nous, artistes, on pouvait aussi leur proposer des choses. Et dans ce cadre-là, donc moi j'avais à proposer des choses aux gens, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme exercice d'écriture? Parce que c'était ça que j'avais envie de tester. Et j'ai réfléchi, et j'étais sur cette histoire de lettres, et je me disais, tiens, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des lettres très puissantes à écrire, qui pourraient me permettre d'explorer des histoires différentes? Et donc je me suis dit, tiens, si je proposais aux gens qui sont là la chose suivante, est-ce que vous avez eu un jour envie d'écrire une lettre à quelqu'un sans avoir jamais réussi à passer le pas? Si c'est le cas, si vous voulez, vous me la racontez, on se met dans une loge et puis j'essaie de l'écrire pour vous et on verra si ça peut faire un spectacle. Et ça a commencé comme ça. Il y a eu plein de spectateurs volontaires qui sont venus me raconter une lettre.
Mais alors comment ça se passait?
Et ben,
vous étiez sur scène?
Il y avait une liste, parce qu'on était là tous les jours du lundi au dimanche de 10h à 23h avec ces équipes-là.
À
la Bastille. Et il y avait une liste de gens qui avaient envie de se faire écrire une lettre. Alors ils me disaient, David, est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit oui, demain 10h30. Le lendemain à 10h30, on se retrouvait dans une loge du théâtre. J'avais mon ordinateur et ils me racontaient pendant une demi-heure la lettre qu'ils auraient eu envie d'écrire à leur père, à leur mère, à leur amoureux, à leur amoureuse, à leurs meilleurs amis, à leur, que sais-je encore. Moi, je prenais des notes pendant ces 35 minutes. Ils partaient après les 35 minutes, et je me donnais 3/4 d'heure, 1 heure à l'époque, pour essayer d'écrire cette lettre qui n'avait jamais été écrite.
Vous faisiez écrivain public, alors?
C'est ça, en quelque sorte.
Vous étiez une sorte d'éponge?
Une sorte d'éponge. Je tentais, en tout cas, de récupérer autant que possible et l'émotion et les mots de ce que ces femmes et ces hommes venaient me livrer, me confier.
Et aussi le rythme de la parole, la langue?
Ouais, beaucoup. Et du coup, c'était un travail de, d'essayer d'aller vers eux, vers leurs mots M-O-T-S et M-A-U-X, les deux. Et voir comment est-ce que je pouvais en faire une transformation. Et comment est-ce que cette transformation, on pouvait après la partager à un public plus nombreux. C'était cette idée que si on transforme, si on construit une esthétique à partir de la parole des gens, alors on peut peut-être la partager au monde. Paris, printemps 2016. Soir. Raquel a son enfant à venir.
Mon amour, tu viens d'avoir 20 ans. Cette lettre t'a été écrite il y a 21 ans. C'était le 20 avril 2016. Il était 21h56, au 76 rue de la Roquette, à Paris, dans le 11e arrondissement, au théâtre de la Bastille. À l'heure où tu lis cette lettre, je ne sais pas si ce théâtre existe encore, ni ce qu'il s'y passe, ni ce qu'il s'y est passé ces 20 dernières années. Cela fait un long temps que je t'espère et que je voudrais que tu existes. Et je ne suis pas encore enceinte de toi. Mais j'espère l'être vite. J'ai une malformation de naissance qui fait qu'avoir un enfant est un risque très important. Disons pour simplifier qu'il y a énormément de chances que ça ne marche pas. Mais la vie est comme ça. Parfois, même si on en a le désir le plus immense, les choses peuvent ne pas marcher. C'est comme ça. Je crois qu'il faut les essayer, malgré tout. Parce que l'impossible et l'impensable arrivent toujours. On ne sait jamais, alors il faut essayer. Je ne m'imagine pas du tout comment est la vie pour toi, pour nous, en 2037, alors que tu lis cette lettre. Où que nous soyons, où que tu sois, je veux te dire que je t'aime.
David Jesselson, c'est la première lettre de votre spectacle, c'est la première lettre du livre qui a été tiré de ce spectacle, du livre Lettres non écrites. Et c'est une lettre à un enfant qui n'est pas né.
Alors si, elle est finalement née.
Et elle est finalement née, mais quand elle a écrit cette lettre?
Elle ne savait pas si elle tomberait enceinte, et si elle tombait enceinte, elle ne savait pas si elle survivrait.
Ça veut dire qu'elle vous a donné des nouvelles?
Ah bah, un an après, en fait, j'ai découvert, 6 mois après, elle m'a dit qu'elle était tombée, en fait, Raquel est tombée enceinte 2 mois après que cette lettre ait été écrite. Donc ça, c'était merveilleux. Et un an après, sa fille est née, et voilà.
Alors des lettres, il y en a des magnifiques, il y a des lettres violentes, il y a des lettres bouleversantes, comme cette mère à sa fille autiste, qui attendra toute sa vie qu'elle parle. Voilà. Il y a des lettres de colère, d'une petite fille à sa grand-mère qui est atroce, qui la traite de grosse, d'une femme à son mari, assez drôle, qui la trompe, mais qui lui dit que maintenant faut arrêter de l'emmerder avec ça parce que elle est vietnamienne, je crois, c'est ça?
Oui.
Et ouais. Qu'au Vietnam, elle était physicienne spécialisée dans les lasers dédiés à la fabrication des microprocesseurs.
Ouais, c'est ça.
Et que lui, lui en veut parce que là, elle vend du pain à une boulangerie.
Non, parce qu'elle accepte pas le poste de vente à la découpe en boucherie au Franprix. Parce que c'est la seule chose que Pôle emploi lui propose de faire. À cause de son niveau de français, il dit, écoute, t'es sympa, t'es mignon, mais je te rappelle que j'ai une formation un petit peu plus élevée qu'être juste en train de bosser chez Franprix, donc m'emmerde pas, laisse-moi apprendre le français et on verra après.
Et sans cette formation, tu pourrais pas envoyer des SMS à ton amante.
Exactement.
Hein,
voilà, c'est ça.
Qu'est-ce que vous avez en tête comme histoire comme ça? Parce qu'elles sont... Ça dit ce qu'on a de commun, ça dit notre humanité, ça dit aussi l'état d'une société.
Oui, très fort. Ça. Disons que ce projet-là, il s'est du coup beaucoup déployé en France et à l'étranger. Donc je suis allé dans plein de villes en France pour écouter des gens, des histoires, des gens qui avaient envie d'écrire des lettres et je les ai écrites pour eux. Donc j'ai rencontré comme ça plus d'une centaine de personnes, à peu près 200 on va dire, depuis 4 ans, qui m'ont raconté des histoires. Effectivement, ça donne
une photographie
à un moment donné qui est assez voilà riche et complexe et divers. Il y a plein d'histoires. Les dernières histoires qui m'ont marqué, c'est souvent des histoires terribles. Mais c'est pour le coup, c'était une jeune femme d'une force extraordinaire qui avait 22 ans, qui a débarqué dans une des villes de tournée. On a eu encore la chance de jouer la saison dernière avant le confinement, qui avait déjà en fait écrit quasiment les 3/4 de sa lettre, mais en 10 minutes, en attendant d'arriver, qui avait écrit. C'était déjà sublime ce qu'elle avait écrit. Elle avait une pêche d'enfer. Et en fait, elle avait été violée par son petit frère, victime de 14 tentatives de viol dans un foyer parce qu'elle était en galère et que sa mère l'avait virée de chez elle, parce qu'elle était haut potentiel, haute sensibilité, et que du coup, ça n'avait pas été diagnostiqué à temps, donc on pensait qu'elle était juste folle et schizo, alors qu'elle était probablement géniale et juste extrêmement émotive, et qu'elle avait subi un viol gamine atroce, son père s'était barré, et elle avait une force de résilience comme ça qui était complètement sidérante, et du coup, elle voulait écrire qu'elle n'était pas responsable de tout ça, et qu'il avait fallu, juste l'écouter au moment où elle avait parlé, et elle en voulait beaucoup à l'administration de ne pas avoir su l'écouter, et elle écrivait à son père.
Voilà. Mais vous mettez où à ce moment-là? Quelle distance? Comment vous faites? Parce que vous devez avoir de l'empathie, de la compassion, vous devez écouter, en même temps vous devez une sorte de distance, garder une sorte de distance. Je pense aux psychanalystes, parce qu'il y a aussi des lettres aux psychanalystes.
Oui, alors je pense que la différence majeure entre ce que je fais moi et le travail d'un psychanalyste, c'est que moi je soigne personne, je soigne rien et on se revoit pas. Alors que le propre d'un travail analytique, c'est qu'on va se revoir jeudi prochain. Ou dimanche prochain. Enfin, peut-être pas dimanche, ils travaillent pas le dimanche. Mais nous, on va pas se revoir. Simplement, c'est une rencontre, en fait. Une vraie rencontre, au sens de ce que ça veut dire que de se rencontrer. Voilà, essayer de se reconnaître l'un et l'autre.
Et de se dire.
Et de se dire des choses. On est des individus, on est des humains et on se parle. Et du coup, bah, la distance, elle est en fonction de ce que chacun demande. Cette jeune femme, voilà, elle s'est livrée. Il y avait rien, je n'avais rien à lui demander pour qu'elle se livre. Il y a d'autres histoires où il faut s'approcher à pas de loup, à pas feutré, pour pouvoir ouvrir la possibilité de se, se, se parler, quoi.
Et puis, une fois que vous dites ces lettres sur scène, si elles sont adressées à un mari, ou il peut être là, à côté de la personne qui vient de dicter cette lettre.
Alors après, attention, on prend soin vraiment de rendre tout anonyme pour respecter l'intimité des gens et les histoires. Les histoires qui viennent m'être livrées, personne ne sait qui l'a raconté. Tous les noms sont changés,
mais ça doit résonner fort dans la salle.
Le matin, quelqu'un est venu se faire écrire une lettre, souvent il vient le soir, et parfois il vient effectivement...
avec la personne
avec
à
la
qui
personne
est adressée cette lettre.
Ça arrive très rarement. Mais par contre, les gens qui sont dans la salle sont au courant que dans la salle, il y a des gens qui probablement se sont fait écrire une lettre, celle qu'on est en train d'entendre. Ça arrive.
Ça doit faire des drôles d'ambiance quand même.
Oui, mais ça construit des... Il y a beaucoup de bienveillance dans la présentation. Il y a un truc très... C'est très chaleureux, en fait. Souvent.
Alors, il y a plein de lettres comme ça, on n'en a pas parlé. Hein. Il y a une mère à sa fille qu'elle n'ose pas appeler. Il y a une femme qui écrit au procureur de la République pour lui parler de son ex-conjoint qui la harcèle. Il y a une femme atteinte de la maladie de Parkinson à son mari, etc., etc. Et il y a la lettre d'Antoine à Nelson Mandela.
Paris. Été 2018, Antoine à Nelson Mandela.
La peur et la haine sont des compagnons encombrants. Elles se nourrissent l'une l'autre et contaminent le corps lentement, avec la lenteur et l'opiniâtreté d'un animal sauvage à sang-froid. Il y a parfois des animaux, que certains appellent encore des hommes, qui pénètrent avec force de jeunes enfants. J'ai fait partie de ces enfants-là. Il arrive que l'on en tombe amoureux, en dépit de l'entendement. C'est le syndrome de Stockholm. J'y ai vécu 8 ans. Puis j'ai commencé à détruire mon cerveau. Drogue, alcool, mur de pierre dans le crâne, déchirement du torse, noyade par transpiration, écrasement, et toute tentative de destruction de soi pour parvenir à l'oubli. Il y a toujours dans les bois... À côté de la maison de mon enfance, une cabane que je m'étais construite, où aucun animal n'a jamais pu entrer. Je pense qu'elle existe toujours. J'y pense souvent. J'en ai construit d'autres depuis. J'y abrite la haine et la peur, de l'amour et de la terreur. J'y casse les murs de mes paniques et y extirpe les varans et les reptiles qui y logent encore, à la hache. Je vous écris, très cher Nelson Mandela, avec la gêne et l'humilité d'un inconnu s'adressant à un mort. Et peut-être ne vous souviendrez-vous pas de moi. Nous nous sommes rencontrés 4 secondes. Ces 4 secondes, c'était dans un avion en retard pour Londres, m'ont permis de quitter définitivement le syndrome de Stockholm et ses serpents. Il y a des yeux qui caressent avec la douceur tendre et lumineuse de l'aube, des yeux à traverser, où le pardon l'emporte sur l'oubli. Ce sont vos yeux. Je voulais vous remercier de m'avoir permis de voir à nouveau. Antoine.
Vous vous souvenez d'Antoine ?
De cet Antoine ? Très très bien. Très très bien. Très très bien parce que la rencontre était dingue. Ça a fait partie de ces quelques rencontres où... L'homme qui est venu me raconter ça, sur les 35 minutes d'entretien, a passé une demi-heure à me dire « Non, mais c'est super, je suis hyper content de vous rencontrer, je suis hyper en forme, parce que je voudrais écrire une lettre à Mandela, Nelson Mandela, vous voyez, j'adore, et hyper militant, j'adore le mec, super, et j'ai vraiment envie de le remercier, je sais pas, pour tout ce qu'il a fait. » Et je lui disais « Mais c'est tout ?» Et puis petit à petit, la joie diminuait, et je dis « Mais pourquoi Nelson Mandela ?»« Bah voilà, moi je trouve ça important, le combat pour la liberté, et voilà, enfin c'est pas rien ce qu'il a fait cet homme, et puis ça s'approfondissait, puis à un moment donné, je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre relation avec Nelson Mandela ?» Et puis tout d'un coup, il m'a dit, je sais, et ça faisait 30 minutes, hein, et il me dit « Avec Nelson Mandela, j'ai eu l'impression qu'on pouvait pardonner, sans oublier. » Et je lui ai dit, d'accord, est-ce que vous, il y a quelque chose que vous auriez envie de pardonner, sans oublier ? Et là, il s'est livré, et là, il m'a raconté cette histoire, mais dans les 5 dernières minutes. Mais c'était dingue, parce que c'était vraiment... J'aurais vraiment pu passer à côté. Il s'en est fallu de peu, s'il n'avait pas dit cette phrase... qu'il s'était rendu compte grâce à Nelson Mandela qu'on pouvait pardonner et pour autant ne pas oublier, je serais passé à côté de son histoire et j'aurais pas, lui ne me l'aurait pas raconté, moi j'aurais pas écrit. Enfin, voilà. Et il y en a régulièrement, on est comme ça.
Mais ça veut dire que vous avez une oreille fantastique.
Oh, ça, je sais pas, j'ai une oreille en tout cas.
Cherchant notre chemin, on s'était arrêté dans une ville éventrée, le monde s'embourbait dans les rues encombrées, poursuivis par des averses sans fin. Vite, nous nous sommes engouffrés dans une bouche de métro édentée, un escalator mécanique désarticulé. On se pressait dans la mêlée sans s'entendre ni se parler. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le flux.
Bon, maintenant, on va parler de choses sérieuses, David Chesterton, okay. D'accord ?
Okay.
Votre journée particulière, c'était en 2007. Hein, et on va voir si vous êtes au point sur le hit parade de 2007.
Ah, mais c'est impossible. Vous
parce
allez...
que vous frimez depuis le début de l'émission,
mais
genre
non, mais...
j'ai fait un concours avec mon metteur en scène.
Ah,
voilà, voilà.
Voilà.
Mais là, maintenant, c'est sérieux.
Mais je suis d'une inculture crasse et musicale et cinématographique. Tout ça, c'est du flan, c'est pas vrai.
Ben ça ne m'étonne
là,
pas.
Là,
vous
allez on voir la vérité va apparaître.
Ouais, maintenant,
maintenant.
Tout de suite. Vous êtes prêts? Ça apparaît là.
Oui, oui, bah oui, mais si vous... Oui, oui, bah bien sûr.
Oui, alors ?
Oui, bah je suis complètement d'accord.
Oui ?
Voilà.
Ouais.
Ouais.
C'est qui ?
C'est... Mais je connais que ça, mais...
On est déçus, on est déçus, on est déçus.
Je quitte le projet.
C'est Mika !
Oui, bah je le sais.
Bon, on continue.
Oh là là.
Est-ce que c'est vrai que votre prochain spectacle, une fois que vous aurez fini de jouer La Cerisa, bien sûr, avec
oui.
Isabelle Huppert, en
oui.
vous amusant avec votre metteur en scène Thiago Rodriguez, c'est vrai que vous êtes en train de travailler sur l'homme de Néandertal pour votre...
C'est ça.
Et alors pourquoi ?
Parce que j'ai découvert un livre extraordinaire d'un chercheur qui s'appelle Svante Paabo, qui raconte comment il a découvert l'ADN de Néandertal et comment il a découvert qu'on était mélangé avec Néandertal et qu'on avait tous de l'ADN de Néandertal en nous. Et il raconte les 35 ans d'enquête qui lui ont permis de faire ça et c'est génialissime. Et du coup, ça ouvre sur c'est quoi l'ADN, comment on lit ça. C'est comme un nouveau code, une nouvelle écriture à décoder et c'est vraiment passionnant.
Et est-ce que vous saviez que l'homme de Néandertal faisait de la musique ?
Vous allez m'avoir.
Vous ne saviez pas ça ?
Non.
Dans cette grotte a été découvert un objet qui a mis toute la communauté scientifique en ébullition. Percé de plusieurs trous alignés, l'objet a toutes les caractéristiques d'une flûte. Vieux de 50 à 60 000 ans, il date d'avant l'arrivée d'Homo sapiens en Europe et laisse supposer que l'homme de Néandertal aurait lui aussi créé de la musique et fabriquer des instruments pour en jouer. Ce serait donc là le plus vieil instrument de musique jamais retrouvé au monde. Depuis quelque temps, les préhistoriens réévaluent les capacités et la culture de Néandertal. Notre cousin disparu fabriquait des outils perfectionnés. Il pouvait même créer des parures et travailler des objets en cristal. C'est le premier être humain à enterrer ses morts. La plupart des préhistoriens s'accordent aujourd'hui pour admettre que l'univers culturel de Néandertal était aussi riche que celui de Sapiens.
Bon, je suis très déçue parce que vous l'avez vu en plus, ce documentaire. Ça, c'était un extrait de ce documentaire « Sapiens et la musique fut ». Documentaire de Pascal Gobelot qui a été diffusé sur Arte et que l'on retrouve en replay sur le site d'Arte jusqu'au 24 août.
Je le note, maintenant que vous dites le titre, je ne l'ai pas vu.
Ah, vous l'avez
Sapiens
pas vu ?«
Sapiens et la musique fut ».
Et la musique fut de Pascal Gobelot. Hein, et vous pouvez le revoir en replay sur Arte jusqu'au 24 août.
Génial.
Et je me disais, David Jesselson, est-ce que... Maintenant que vous savez que l'homme de Néandertal jouait certainement de la flûte,
oui.
Est-ce que dans votre spectacle, vous l'imaginez faire du théâtre ?
Non, parce qu'on ne va pas raconter la vie de l'homme de Néandertal. Je pense que ça ne sera vraiment pas intéressant si on fait ça. On va raconter comment un homme qui a été abandonné par son père à la naissance est obsédé par d'où on vient. Et comment est-ce que c'est ce type, Santé Paabo, qui découvre que les homo sapiens, en fait, se sont mélangés et qu'on est là parce qu'on s'est mélangé et que les femmes sapiens avaient la capacité de se mélanger avec des hommes de Néandertal et de faire des enfants avec eux, là où les femmes de Néandertal n'avaient probablement pas la même capacité et que c'est parce qu'on s'est mélangé qu'on est aujourd'hui là où on est. Après, il va falloir qu'on apprenne à faire attention à l'endroit où on habite de manière urgente. Parce qu'en 2050, il fera vraiment trop chaud et on n'en aura plus grand-chose à faire de savoir qu'on est mélangé avec les Néandertaliens, parce que de toute façon, on ne pourra plus vivre.
Mais enfin, on vous voit venir, quoi. Un auteur qui a perdu son papa, obsédé par l'idée de d'où on vient.
C'est ça.
Ça vous parle un peu, tout ça ?
Ça me parle beaucoup. Ça me parle. Qui fait la science, ce sont des gens, de la manière que c'est. L'histoire, elle est faite par des individus, et les individus qui font la science, pourquoi ils l'écrivent, pourquoi ils cherchent, et qu'est-ce qui les pousse à chercher ? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'on cherche, et qu'est-ce qu'on cherche ? Probablement, on cherche des manières de se relier les uns aux autres, et je me dis que c'est intéressant de travailler sur ça, comment on se relie dans les années qui viennent.
Merci. David Jesselson, d'avoir passé cette heure avec nous. Vos lettres non écrites ont fait l'objet d'un livre aux éditions du Tripode. On peut aussi vous voir jusqu'au 17 juillet dans la cour d'honneur du Palais des Papes, dans la Cerisaie, dans une mise en scène de Thiago Rodriguez avec Isabelle Huppert. C'était une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combes, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka, à la technique aujourd'hui Pierre-Yves de Rollin. Nous, on se retrouve dimanche prochain, mais notez bien l'heure, c'est l'horaire d'été d'une journée particulière. On se retrouve à 16h. Passez un bon week-end. Tout de suite après le flash, vous retrouverez le feuilleton des médias francophones publics sur la folie des années 80, épisode 2, l'année 1982.